Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur RCG en ce mardi 31 décembre, il est 8h.
La matinale info, Elsa Parienté.
Au programme de cette édition, l'actualité israélienne et notamment les derniers tirs des Houthis encore dans la nuit sur Israël. On en parlera avec notre correspondante sur place, Myriam Amann, à 8h15. L'invité de la matinale, Léonard Zerbib, avocat et chargé d'enseignement en droit constitutionnel, avec qui on reviendra sur cette année 2024 politique assez marquante. L'actualité, tout de suite sur RCJ.
Le journal.
Des sirènes ont à nouveau retenti dans le centre d'Israël. Un missile lancé depuis le Yémen a à nouveau été intercepté par l'armée de l'air israélienne avant de traverser le territoire israélien. Les sirènes ont été déclenchées en raison du risque de chute de débris lors de l'interception. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se réunir prochainement pour discuter des menaces à la paix et à la sécurité internationale, notamment de la part des Houthis au Yémen. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar avait envoyé une lettre à l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, qui est actuellement présidente du Conseil de sécurité, pour lui demander d'organiser cette session spéciale. Un soldat de Tsahal a été tué pendant les combats dans le nord de la bande de Gaza dans la journée d'hier, a annoncé l'armée. Le sergent Uriel Peretz était âgé de 23 ans. Il était originaire de Betar Ilit. Trois autres soldats ont été grièvement blessés dans le cadre du même incident qui est survenu dans la région de Beit Hanoun. Le Hamas surveillait les autorités locales israéliennes, les membres des services de sécurité et les communautés situées aux abords de la frontière avec la bande de Gaza depuis au moins 7 ans lorsqu'il a commis son massacre du 7 octobre 2023. Selon un reportage diffusé sur la 12e chaîne israélienne, pour la première fois, des images tournées par des caméras de surveillance et des documents sensibles saisis dans des ordinateurs utilisés par le groupe terroriste ont été diffusés. Parmi ces documents, l'un est daté du mois de novembre 2020 et démontre que le Hamas était en possession des adresses IP et des numéros de série de toutes les caméras de sécurité du conseil régional de Sharanegev et du secteur environnant les plages d'Ashkelon, une zone qui comprend le kibbutz Kfar Aza, l'une des communautés qui avait été les plus durement touchées le 7 octobre 2023. Deux personnes ont été tuées dimanche dans la bande de Gaza où la situation humanitaire est critique après plus d'un an de guerre au cours du pillage armé d'un convoi du Programme alimentaire mondial, a annoncé l'organisme de l'ONU que le Hamas tient pour responsable de ce drame. Depuis plus de deux semaines, presque tous les acheminements d'aide humanitaire entrés via le sud et le centre de Gaza ont engendré violence, pillage et morts tragiques en raison d'attaques et de l'absence de maintien de l'ordre le long des routes empruntées par les convois, a-t-on pu lire dans un communiqué du Programme alimentaire mondial. Le service de presse du Hamas à Gaza a affirmé de son côté qu'une erreur catastrophique de ce programme était à l'origine des deux morts et deux dizaines de blessés par balle. Les ministres français des armées, Sébastien Lecornu, et des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sont arrivés ce lundi au Liban, où une trêve fragile est en vigueur depuis le 27 novembre entre Israël et le Hezbollah. Dans la journée, les ministres doivent notamment rencontrer les militaires français de la force intérimaire des Nations Unies au Liban à l'occasion du nouvel an à Deir Kifa dans le sud du pays. Nos armées sont et resteront engagées pour la stabilité du Liban et de la région, a écrit sur RIC Sébastien Lecornu, précisant qu'il s'entretiendra aussi avec le général Ponchin, représentant la France au sein du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Ce comité de surveillance qui rassemble le Liban, Israël, les États-Unis, la France et la FINUL est chargé de surveiller l'application du cessez-le-feu et toutes les potentielles violations. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a salué ce lundi l'ancien président américain Jimmy Carter, disparu la veille à l'âge de 100 ans, comme, je cite, un homme d'État extraordinaire et pacificateur mondial. Premier président américain à reconnaître le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, il a œuvré sans relâche afin de trouver une solution juste et durable au Moyen-Orient, a déclaré Mahmoud Abbas dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle palestinienne Wafa. De premières dépouilles des 179 victimes du pire crash sur le sol sud-coréen ont été remises aux familles ce jour. Les enquêteurs tentent toujours de déterminer les causes de l'accident du Boeing 737-800 de Jeju Air survenu deux jours plus tôt. Les autorités ont commencé à étudier les deux boîtes noires extraites de l'appareil, selon le vice-ministre en charge de l'aviation, alors qu'une équipe d'investigation américaine incluant des représentants de Boeing est arrivée sur les lieux du drame. Le nouveau dirigeant syrien Ahmad al-Shaari a nommé d'anciens rebelles à des postes de commandement au sein de la future armée du pays, parmi lesquels pourraient figurer des djihadistes étrangers. Les autorités ont annoncé la semaine dernière un accord avec les groupes armés issus de la coalition d'islamistes radicaux ayant renversé Bachar al-Assad le 8 décembre pour leur dissolution et leur intégration au sein du ministère de la Défense. Le gouvernement allemand accusé de défaillance après l'attaque mortelle à la voiture bélier du marché de Noël de Magdebourg, a estimé qu'elle n'aurait pu éviter ce drame et mis en avant, je cite, « le psychisme pathologique de l'auteur présumé saoudien ». Quelques jours avant de céder le pouvoir à Donald Trump, Joe Biden a annoncé un dernier volet massif d'aide militaire et économique à l'Ukraine pour un montant total avoisinant les 6 milliards de dollars. Cette assistance est constituée pour près de 2,5 milliards de dollars d'équipements militaires, dont certains seront livrés immédiatement et d'autres plus tard, et pour près de 3-4 milliards de dollars de soutien budgétaire direct à Kiev. Ce soutien vient à un moment décisif alors que la Russie intensifie ses attaques, a commenté le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur le réseau social X en faisant part de sa gratitude. Le président américain élu Donald Trump, qui sera investi dans 3 semaines, devra bien payer 5 millions de dollars à une autrice qu'il avait agressée sexuellement dans les années 1990 et diffamée lorsqu'elle avait révélé les faits plus de 20 ans après, a tranché une cour d'appel de New York. Le 9 mai 2023, le tribunal fédéral civil de Manhattan avait jugé le 45e président des États-Unis responsable d'une agression sexuelle sur l'ancienne chroniqueuse de presse Elizabeth Jean Carroll dans un grand magasin new-yorkais en 1996. En France, empêcher la reconstruction des bidonvilles, rétablir l'électricité dans chaque foyer d'ici fin janvier. François Bayrou a annoncé une batterie de mesures lors de sa visite à Mayotte 2 semaines après le passage du dévastateur cyclone Chido. Après une visite d'une journée à la tête d'une importante délégation ministérielle, le Premier ministre a présenté devant le Conseil départemental de l'archipel son plan Mayotte debout, qui, je cite, a une seule ligne directrice, pas de phrase, des décisions concrètes et précises, des engagements concrets et précis. Fin de citation. Un second procès aura lieu dans l'affaire des viols de Mazan. Même si Dominique Pellicot, condamné à 20 ans de réclusion pour avoir drogué sa femme Gisèle afin de la violer, de la livrer à des dizaines d'inconnus, ne fait pas appel. Au terme du délai de 10 jours qui expirait hier soir, 17 des 50 hommes reconnus coupables des viols sur Gisèle Pellicot ont fait appel, a annoncé le procureur général de la cour d'appel de Nîmes. Le parquet a répondu par un appel dit incident, c'est-à-dire visant chacun de ces hommes. Le procès en appel devrait se tenir devant la cour d'assises du Gard, cette fois devant un jury populaire à une date encore indéterminée, entre septembre et décembre 2025. Et enfin, les Français ne paieront pas davantage d'impôts sur le revenu au 1er janvier 2025, malgré l'absence d'indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu. Mais la donne pourrait changer si la France reste sans budget dans le courant de l'année. Dans une interview à la Tribune dimanche, le nouveau ministre de l'économie, Éric Lombard, s'est voulu rassurant, affirmant que nous aurons un budget qui comportera une indexation du barème. Les Français qui ne payent pas d'impôts sur le revenu aujourd'hui n'en paieront pas demain, a-t-il également assuré. 8h08 sur RCJ, reste avec nous. On se retrouve dans un instant pour l'actualité en Israël avec notre correspondante sur place, Myriam Amen.
Le FSU vous souhaite de belles fêtes de Hanouka. Que la lumière éclaire toujours notre avenir et guide nos actions.
Grâce à vous, nous construisons une jeunesse éduquée et engagée. Un réseau d'écoles solides.
Et pour la solidarité, le FSU soutient les seniors isolés, les familles en détresse et les enfants en difficulté. Vos dons changent des vies.
Alors, restons forts, unis et solidaires.
Donnez maintenant sur don2024.fsju.org.
don2024.fsju.org.
Attention, votre don doit être fait avant le mardi 31 décembre.
Bain et déco.
Donnez à votre salle de bain une dimension unique.
Bain et déco.
Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre.
Le secret Bain et déco.
Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet.
Le plus, Bain et déco.
Les marques les plus prestigieuses. Et une seule ambition, l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z.
Bain et déco, 2 showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne.
Bainetdeco.com.
En Israël, chaque seconde compte. Sous la menace constante de missiles, le Magen David Adom est en première ligne pour sauver des vies. Ils ont besoin de vous, maintenant. Chaque don permet d'apporter des soins vitaux, de secourir les blessés et de protéger les civils. Faites un don aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org.
mda-france.org.
Magen David Adom.
Association au service de la vie.
8h09 sur RCJ, on prend la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante sur place, Myri Maman. Myri, bonjour. Myri, est-ce que vous nous entendez ?
Je vous entends, vous m'entendez ?
Oui, tout à fait, bonjour.
Oui.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à nouveau ce matin. On commence avec les Houthis qui ont tiré hier soir sur le centre d'Israël.
Oui, les alertes ont retenti dans le centre du pays vers 23h15, heure locale, ce qui a poussé évidemment des milliers d'Israéliens dans les abris, y compris à Tel Aviv. Le missile balistique tiré depuis le Yémen a bien été intercepté par le système de défense anti-aérien, mais des débris se sont abattus dans plusieurs villes comme Harish ou encore Beit Shemesh sans faire de blessés. À Yavne, toujours dans le centre du pays, une jeune fille de 18 ans a été heurtée par une voiture alors qu'elle cherchait à rejoindre un abri. Transportée à l'hôpital, elle souffre de contusions à la poitrine et aux membres, mais sa vie n'est heureusement pas en danger. Plusieurs Israéliens ont également été pris en charge par les services de santé en raison de crises d'angoisse. Alors, avant cette nouvelle attaque, l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Dannon, avait appelé le Conseil de sécurité à reconnaître les Houthis comme une organisation terroriste. Il a également affirmé que la milice chiite yéménite subirait le même sort que le Hamas et le Hezbollah si elle poursuivait ses attaques contre Israël. Les terroristes yéménites ont eux déclaré hier qu'ils continueront à attaquer Israël tant que la guerre à Gaza se poursuivait. Ce nouveau tir, il faut aussi le savoir, a eu lieu alors que les médias yéménites proches des Houthis venaient de rapporter des frappes de la coalition américano-britannique sur le port stratégique de Hodeida, c'est au Yémen.
Et par ailleurs, vous l'évoquiez, le Hezbollah et cette trêve entre Israël et le Hezbollah qui est mise à rude épreuve récemment.
Et oui, le cessez-le-feu est en application depuis un peu plus d'un mois. Il est en vigueur jusqu'à fin janvier. Si tous les termes sont respectés, il pourrait donc se prolonger au-delà de ces 60 jours. Mais le déploiement des troupes libanaises à la place de l'armée israélienne a pris beaucoup de retard, ce qui obligera sans doute Tsahal à rester dans le sud Liban pour assurer la sécurité des Israéliens de la frontière. Les Américains médiateurs dans ce cessez-le-feu entre Jérusalem et le Hezbollah tentent de convaincre Israël de se retirer tout de même du sud Liban avant la fin des 60 jours, mais Tsahal affirme qu'il ne peut pas prendre le risque que l'organisation terroriste reprenne ses positions à la frontière. Alors l'armée israélienne a en outre affirmé que le Hezbollah avait à plusieurs reprises violé la trêve en tentant de se réarmer. Des combattants terroristes ont également tenté de revenir dans les zones qui lui sont désormais interdites, obligeant les soldats israéliens à agir contre eux. Alors selon les experts militaires, Israël ne peut donc pas se permettre de quitter le sud Liban dans les délais prévus par l'accord. L'émissaire américain Amos Hochstein est attendu à Beyrouth pour tenter de faire respecter les termes de la trêve, notamment par la partie libanaise. Il lui reste moins d'un mois pour y arriver.
Politique interne israélienne à présent, et c'est une journée cruciale pour la coalition israélienne avec le vote du budget.
La crise d'un sein de la coalition, certains membres menacent de voter contre ce budget, ce qui risque de faire tomber le gouvernement. Il y a d'abord le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Il est en conflit ouvert avec le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui a donc présenté ce budget, hein, c'est sa fonction. Itamar Ben-Gvir reproche à Bezalel Smotrich de ne pas avoir prévu d'augmentation pour la police israélienne dans ce fameux budget et menace donc de le faire tomber. Si le parti Force juive vote contre ce budget, la coalition aura toujours une majorité pour le faire approuver. Mais cela ne s'arrête pas là. Itamar Ben-Gvir n'est pas le seul à menacer. Le parti orthodoxe Ashkenaz menace lui aussi. Il réclame que la loi d'exemption de l'armée soit votée avant l'adoption du budget. Alors vous savez, c'est cette fameuse loi qui permettra aux étudiants des écoles talmudiques de ne pas servir dans l'armée pour raisons religieuses. Mais le timing est trop serré et cette loi provoque des tensions au sein même de la coalition. Benjamin Netanyahou, qui a été opéré de la prostate dimanche, est toujours en convalescence à l'hôpital. Il a tenté de raisonner hier par téléphone le chef du parti judaïsme unifié de la Torah. Le vote aura lieu aujourd'hui, sans doute, en l'absence du Premier ministre israélien. Affaire à suivre, donc.
Et enfin, Miri Israël appelle ses ressortissants à la vigilance pour le réveillon ce soir à l'étranger.
Et oui, les renseignements israéliens, comme ceux des pays occidentaux d'ailleurs, affirment que le risque d'un attentat est très élevé à l'occasion du Nouvel An. Après l'attaque meurtrière sur le marché de Noël à Magdebourg en Allemagne, et en raison de nombreux appels à la violence sur les réseaux sociaux, Israël a mis en garde ses ressortissants à l'étranger, notamment à Paris, Londres, Berlin, Madrid ou encore New York. La vigilance est de rigueur dans les grands rassemblements notamment, mais aussi dans les soirées privées, dans de grandes salles qui attirent beaucoup de monde. Les autorités locales des capitales occidentales sont évidemment sur le qui-vive, notamment sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple, ce compte Telegram suspect qui a écrit dimanche un message en arabe appelant les présumés musulmans des États-Unis, d'Europe et de Russie à rejoindre les combattants du djihad dans le monde à l'occasion de la Saint-Sylvestre. ce n'est qu'un exemple hein, parmi d'autres. Les renseignements israéliens travaillent, on le sait, en coopération avec les renseignements occidentaux pour déjouer les attentats potentiels, pour que la fête se déroule en toute sécurité. En tout cas, les Israéliens sont appelés à la vigilance dans les grandes capitales occidentales.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, Myriam Amen. On vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à vous.
Bonne journée à tous.
8h15 sur RCJ, restez avec nous dans un instant. Le bilan politique de 2024, ce sera avec Léonard Zerbib, avocat et chargé d'enseignement en droit constitutionnel.
En Israël, chaque seconde compte. Sous la menace constante de missiles, le Magen David Adom est en première ligne pour sauver des vies. Ils ont besoin de vous. Maintenant, chaque don permet d'apporter des soins vitaux, de secourir les blessés et de protéger les civils. Faites un don aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org.
mda-france.org.
Magen David Adom, association au service de la vie.
Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. RCJ.
8h17 sur RCJ, on va revenir sur cette année politique 2024 assez hors norme et c'est avec vous, Léonard Zerbib, avocat chargé d'enseignement en droit constitutionnel. Bonjour.
Bonjour.
On va faire tout d'abord un peu d'actualité, cette séquence politique à Mayotte qui était assez attendue et cette visite du Premier ministre, notamment entouré de Manuel Valls, chargé des Outre-mer, et d'Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, ces ministres d'État les plus proches. Est-ce que pour l'instant, vous avez l'impression qu'ils répondent aux attentes des Français exprimées sur place et à ce qu'attendent aussi les Français de manière générale sur la conduite, à la fois des opérations et de ce que ça veut dire symboliquement, politiquement, ce qui se passe à Mayotte en ce moment?
En tout cas, effectivement, les Mahorais attendent une réponse, ils attendent un soutien. On a une crise humanitaire qui est extrêmement grave à Mayotte. C'est une crise, je dirais, plus profonde encore, parce que le cyclone, effectivement, a ravagé malheureusement cet archipel, mais on le sait, ça faisait déjà de nombreuses années que Mayotte souffre. Le niveau de vie moyen à Mayotte est 7 fois plus faible que dans le reste du territoire national. Vous avez un étranger sur 3 à Mayotte qui est né sur l'île, donc il y a aussi une problématique en termes de sécurité, en termes d'insécurité. Donc il y a beaucoup d'enjeux pour l'archipel de Mayotte. Il y a beaucoup de chantiers effectivement à reconstruire. Tout est à reconstruire sur cet archipel. Et on le sait, dans la séquence politique, François Bayrou, le Premier ministre, avait commis un impair politique au lendemain de la crise, en ne se rendant pas sur l'archipel de Mayotte, ou en tout cas en assistant à ce conseil municipal de Pau, ce qui avait effectivement suscité un certain nombre de commentaires. Donc je pense qu'il y avait une nécessité à ce que le gouvernement se rende sur place, à ce qu'il y ait un certain nombre de mesures fortes, et nous verrons bien par la suite si ces mesures sont suivies d'effets.
Sur cette année 2024, rien qu'un chiffre, un premier chiffre dans un premier temps, 4 premiers ministres en à peine un an. Est-ce que c'est une première? Est-ce que c'est quelque chose qui est appelé de ce que vous voyez? On ne va pas faire la boule de cristal, mais en tout cas pour 2025, à continuer sur cette lignée de l'instabilité, ou c'était quelque chose qui était vraiment propre à cette enchaînement de 2024.
Ah, vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose d'assez inédit et propre à cette année 2024. On avait vu sous la Ve République de nombreux gouvernements qui se sont succédés, mais 4 premiers ministres en l'espace de quelques mois, c'est inédit. Moi, je pense que l'événement, on va en parler sans doute après, l'événement majeur de cette année 2024 en termes politiques, c'est la dissolution. C'est cette dissolution qui a tout accéléré et qui nous conduit actuellement dans ce chaos institutionnel dans lequel nous nous trouvons. Et depuis, nous n'arrivons pas à en sortir. La motion de censure a été adoptée. Et donc, nous nous trouvons avec une très grande fragilité des différents gouvernements successifs. Chaque gouvernement est très instable et nous verrons bien ce qu'il en est du gouvernement Bayrou, mais il a aussi cette fragilité compte tenu de cette absence de majorité à l'Assemblée nationale et de cette absence pour chaque bloc de coaliser avec les autres, d'obtenir une majorité. Donc nous sommes vraiment dans cette instabilité et je vais pas prévenir l'avenir pour 2025, mais il est tout à fait possible que nous ayons de nouveaux gouvernements et une nouvelle censure n'est pas du tout à exclure.
Pour vous, c'est assez clair, là, quelques mois après, il n'aurait pas fallu dissoudre ?
C'est toujours difficile à dire une fois que ça a été fait. Ce qui est certain, c'est que la temporalité a interrogé. Le président de la République a dissous juste après les élections européennes, le jour des résultats des élections européennes. Et cette temporalité a interrogé. Et je pense que les Français n'ont pas bien compris pourquoi il avait eu recours à cette dissolution. Bon, c'est la sixième dissolution sous la Ve République. On le sait, à chaque fois que les présidents de la République ont dissous l'Assemblée nationale, c'est un jeu très dangereux. On se souvient de la dissolution de 1997, où Jacques Chirac avait une majorité à l'Assemblée nationale, mais qui ne correspondait pas exactement à celle de son parti politique, ou en tout cas qui ne correspondait pas à ses acquis, aux élus qui étaient avec lui, et donc il a dissous l'Assemblée nationale, et finalement, cohabitation derrière. Donc, voilà, le pari d'Emmanuel Macron, c'était de se dire, en fait, je vais peut-être avoir une motion de censure qui sera adoptée à la rentrée 2024. C'était son calcul, c'était son idée. Donc il se disait, j'anticipe en faisant une dissolution et j'essaye d'avoir une clarté et de clarifier le jeu politique. Sauf qu'en fait, le jeu politique n'est pas du tout clarifié. On se retrouve aujourd'hui dans une plus grande confusion qu'on ne l'avait au moment des élections législatives de 2022 avec une majorité relative en faveur du président de la République.
Et qui sort gagnant de ce marasme quelque part ? On a l'impression en tout cas que c'est la fin de cet ex-camp présidentiel et le Rassemblement National qui avait donc gagné les élections européennes et qui aujourd'hui semble quand même bénéficier de ce regard ou en tout cas de cette attention du gouvernement à faire en sorte qu'il ne soit pas censuré du fait de la bonne volonté ou non du Rassemblement National.
Le paradoxe de notre époque actuelle politique, c'est que finalement, il n'y a aucun, à mon sens, aucun camp politique qui n'a véritablement gagné. On a trois blocs. On a le bloc du NFP, on a le bloc du Rassemblement National et on a le bloc de la majorité présidentielle. Factuellement, c'est le bloc du NFP qui est arrivé en tête des élections législatives. Si on regarde en termes de groupe politique, c'est le Rassemblement National qui est le premier groupe politique à l'Assemblée nationale. Et si on regarde en termes d'alliance, le groupe de la majorité présidentielle se maintient également. Donc chaque bloc, au lendemain de ces élections législatives, a annoncé qu'il était gagnant ou en tout cas qu'il n'avait pas perdu. Alors qu'en fait, chaque bloc a perdu. Et c'est toute la difficulté de la situation dans laquelle on se trouve, c'est qu'aucun bloc n'a gagné, aucun bloc ne peut véritablement revendiquer sa victoire et surtout, nous n'avons pas une tradition en France d'alliance et de coalition comme on peut le voir par exemple en Allemagne. Et donc toute la difficulté est là, c'est que nous nous trouvons dans une situation dans laquelle aucun bloc ne veut travailler ensemble et une situation également dans laquelle il n'y a pas de possibilité de redissoudre l'Assemblée nationale avant le juillet 2025, ce qui fait que nous sommes bloqués.
Vous avez évoqué le nouveau Front populaire. Est-ce que cette année 2024 n'est pas aussi celle de cette fracture ? Nous, on se souvient, on avait reçu Jérôme Gems dès le 8 octobre sur notre antenne qui nous disait que ça allait être la fin de la NUPES dès ce moment-là. Et pour autant, ça fait des mois qu'on sent que cette question se pose, qu'il y a cette gauche, Carole Delga, etc., qui continue de faire en sorte que ça puisse émerger, qu'il y ait une vraie rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Et pour autant, ça ne s'est pas fait.
Oui, c'était tout le pari d'ailleurs d'Emmanuel Macron. C'était de se dire, la gauche va se fracturer. On parlait tout à l'heure de la temporalité de la dissolution. Emmanuel Macron s'était dit qu'avec un calendrier aussi resserré que celui qu'il a proposé au lendemain de la dissolution, que peut-être la gauche ne parviendrait pas à s'allier. Eh bien finalement, si, ce nouveau Front populaire a existé, il existe. Il s'agit quand même d'une alliance relativement contre nature entre LFI et d'autres mouvements de la gauche, comme les partis socialistes. On le voit aujourd'hui, leurs divergences sont flagrantes, elles remontent à la surface. Mais en tout cas, électoralement, la gauche est très forte pour obtenir des sièges. Et puis je dirais que l'autre surprise de ces élections législatives, en particulier au second tour, c'est la persistance du Front républicain. Voilà, si on cherchait un gagnant, en quelque sorte, de ces élections législatives, ce serait peut-être celui-ci. C'est le Front républicain, ce sont tous les désistements entre le premier et le second tour, au profit des candidats dits républicains, c'est-à-dire en dehors du Rassemblement national et des candidats du NFP. Et effectivement, on a cette difficulté à obtenir une majorité claire. Et en tout cas, effectivement, le NFP existe bel et bien aujourd'hui. Là encore, je ne vais pas prédire l'avenir, mais s'il y avait demain de nouvelles élections anticipées après le mois de juillet 2025, je parie que la gauche saurait sans doute à nouveau s'allier pour ces élections.
Oui, pour autant, c'est vrai que ce Front républicain qui a gagné et qui n'a pas été en capacité d'aller jusqu'au bout et de faire un gouvernement d'union nationale, aujourd'hui, là, la personnalité politique dans laquelle les Français ont le plus confiance en décembre 2024, c'est Bruno Retailleau. Est-ce que ce qui signe aussi cette année, c'est le retour de cette droite républicaine qui avait perdu énormément de poids et de pouvoir dans le débat public français?
Alors effectivement, les Républicains avaient été vus ces dernières années comme en second plan de l'échiquier politique. Ils ont réussi à se maintenir malgré tout à l'Assemblée nationale grâce à ce Front républicain. Et tout le paradoxe de cette situation actuelle, c'est d'avoir un Premier ministre qui vient du centre et qui appartient à cette majorité présidentielle qui était, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt en second plan. Et également, un certain nombre de personnalités des Républicains. Vous avez cité effectivement Bruno Retailleau, on se rappelle de l'ancien Premier ministre Michel Barnier. Et donc, effectivement, les Républicains font partie aussi de ce mouvement qui compte dans la période actuelle parce qu'il n'y a pas de majorité et qu'il y a bien besoin de s'appuyer sur tous les partis existants, et y compris les Républicains.
Est-ce que face à tous ces changements, il n'y a pas aussi un changement de perception du rôle du président de la République dans notre 5e République? Là, il y avait un conseiller qui disait ce matin que pour les vœux qui sont attendus ce soir, jusqu'à présent, on avait un président qui était dans une position de quelqu'un qui agit, et qui là, c'est un président qui préside et le gouvernement gouverne. Est-ce qu'on est retourné à quelque chose de peut-être plus traditionnel dans la répartition des rôles?
Alors oui, on peut dire qu'actuellement, on est peut-être plus dans une lecture plus littéral de la Constitution, c'est-à-dire un gouvernement qui est là pour gouverner et un président qui a un rôle plutôt d'arbitre. C'était comme ça qu'étaient pensées les institutions de la Ve République. Ce qui est quand même inédit, c'est que on a connu sous la Ve République des cohabitations, et là on n'est pas dans une période de cohabitation. C'est tout le paradoxe, c'est qu'on a un président qui est déchu, qui n'a plus véritablement de pouvoir pour agir. On le voit au niveau national, on le voit aussi également à l'international. Et dans le même temps, on a un gouvernement qui a à la fois des aspects qui reprennent ceux de la majorité présidentielle. Et donc, on n'a pas véritablement de cohérence, ni de cohabitation, ni d'opposition. Donc oui, effectivement, je crois que là, on est revenu à quelque chose qui ressemble davantage à la lettre de la Constitution. En revanche, nos institutions actuelles, depuis une vingtaine d'années, accélérées par la concordance des majorités, n'y n'était plus du tout habitué, et je crois que ça pose une difficulté politique parce que on le voit, il n'y a pas de majorité claire et il n'y a pas non plus d'opposition claire. On ne comprend pas très bien qui est dans la majorité, qui est dans l'opposition. Donc, pour sortir de ce blocage politique dans lequel nous nous trouvons, il n'y a pas 40 000 options. Soit on arrive à tenir le coup jusqu'au mois de juillet et il y aurait une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale.
Ça vous paraît probable?
C'est tout à fait possible, en tout cas, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la majorité, l'Assemblée nationale, est intenable et que ça va être très difficile, au cas par cas, d'obtenir des textes. Mais peut-être que l'un des faits inédits de cette année 2025 pourrait être la question de la démission anticipée du président de la République. En tout cas, ce qui est nouveau, c'est qu'en 2024, ce sujet arrivé sur la table. Ce sujet était déjà venu avec le sujet de la destitution du président de la République, mais aujourd'hui, de plus en plus de commentateurs s'interrogent sur: est-ce que le président de la République ne devrait pas démissionner pour recréer une nouvelle dynamique et simplement essayer d'obtenir de nouvelles majorités?
Affaire à suivre. Merci beaucoup Léonard Zerbib d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 11h. Retrouvez Essentiel avec Sandrine Seban. Une rediffusion. Elle recevait Peggy Sastre pour son livre Ce que je veux sauver. On se retrouve quant à nous à midi pour la suite de l'information. Bonne journée à tous.
Bonjour, c'est Marc Velinsky. Pour les fêtes de fin d'année, offrez ou offrez-vous un livre de philosophie souriante. Pourquoi il est impossible de rater sa vie. Dans ce livre, je montre que même si vous connaissez l'échec, la déception...
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Hélène Ferradian. Radio J.
Il est 8h30. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous, comme tous les matins. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h ce mardi 31 décembre 2024, 452e jour de guerre en Israël, toujours sans otages à Gaza.
Le journal de 8h30 vous est présenté en partenariat avec Progrès Santé, l'école référente depuis plus de 30 ans pour les formations paramédicales. En alternance ou en initiale, devenez un acteur de la santé. Informations sur progrès-santé.com, progrès-santé.com et sur Parcoursup. Progrès Santé, votre avenir professionnel commence ici.
Et l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le 452e jour de guerre et des dégâts dans plusieurs villes d'Israël. Après le tir d'un missile cette nuit, une nouvelle attaque des Houthis. À Yavne, une jeune femme de 18 ans a aussi été légèrement blessée après avoir été heurtée par un véhicule alors qu'elle cherchait à rejoindre un abri. Transportée à l'hôpital, elle souffre de contusions à la poitrine et aux membres. Il y a aussi eu plusieurs cas d'anxiété, de crise d'angoisse qui ont été signalés plus tôt dans la soirée. Les États-Unis ont frappé des cibles Houthis au Yémen, dans le sud de Hodeïda. Les Houthis subiront le même sort misérable que le Hamas et le Hezbollah. Engagement pris hier par l'ambassadeur d'Israël à l'ONU. À la demande de l'État juif, le Conseil de sécurité s'est réuni en session d'urgence sur le sujet des Houthis. Un nouveau soldat israélien tué dans la bande de Gaza hier. Le sergent Uriel Peretz de Betar Ilit, il faisait partie de la brigade Kfir. Il n'avait que 23 ans. 8 autres ont été blessés. Tous se trouvaient dans un bâtiment de Beit Hanoun. Ils ont été touchés par des tirs anti-chars. Des terroristes posent des bombes à proximité d'un hôpital dans la bande de Gaza. Les images ont été diffusées par Tzahal hier. Elles ont été obtenues à partir de caméras appartenant à des membres du Hamas. Les charges explosives ont été installées à 45 mètres seulement du centre médical de Jabalia. Un autre exemple de l'utilisation cynique de la population et de la violation du droit international par le Hamas, précise Tzahal. L'armée israélienne a intercepté hier 2 roquettes lancées contre le sud d'Israël depuis la bande de Gaza. Par ailleurs, il y a eu un convoi du programme alimentaire mondial qui a été pillé. 2 morts, le bilan. Faute de maintien de l'ordre, le PAM dénonce des violences et des pillages dans la bande de Gaza depuis plus de 2 semaines. Les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense sont au Liban un mois après la trêve entre Israël et le Hezbollah. Jean-Noël Barrot et Sébastien Lecornu ont rencontré le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Aoun, aussi pressenti comme candidat potentiel à la présidence libanaise. Et enfin, François Bayrou et plusieurs membres du gouvernement sont à Mayotte pour panser les plaies du cyclone Chido. Le Premier ministre a révélé le plan Mayotte debout hier. L'État s'engage à empêcher la reconstruction des bidonvilles et à garantir l'accès à l'électricité, entre autres.
Merci beaucoup Eva Soto. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 9h sur Radio J.
Le journal de 8h30 vous a été présenté en partenariat avec le Collège Tikva. Collège Tikva, le premier collège trilingue à Boulogne. Renseignements Collège Tikva sur collegetikva.com. 01 49 23 73 41. Collegetikva.com. Collège Tikva, parce que chaque élève est unique.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Radio J.
Merci de nous rejoindre sur Radio J ce mardi 31 décembre, dernier jour de l'année 2024. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2025. Dans quelques instants, Élie Carmon, notre invitée.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre sur Radio J. 452e jour de guerre en Israël. Des dégâts dans plusieurs villes d'Israël après le tir d'un nouveau missile outil cette nuit. Pour en parler, nous sommes avec Eli Carmon, chercheur principal à l'Institut international de lutte contre le terrorisme et spécialiste justement de ces questions stratégiques et sécuritaires. Bonjour Eli.
Bonjour.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio J. Important de vous entendre, effectivement, à la lumière de ce qui se passe en Israël, une nouvelle nuit d'alerte pour les Israéliens notamment. On voit une intensification des frappes quand même des rebelles, des Houthis du Yémen. Alors est-ce qu'il faut craindre à présent que la situation s'aggrave pour les Israéliens et quel type de réponse Israël peut apporter à cette menace ?
Malheureusement, il n'y a pas de problème pour les Houthis pour attaquer Israël chaque nuit. Et c'est surtout un chic parce que la moitié du pays doit être en alerte et chercher un abri. Et aussi, il y a un coût pour l'économie du pays. Et les Houthis savent très bien que c'est suffisant de tirer un seul missile ou peut-être un drone suicide. Et ça engage presque la moitié du pays. Depuis longtemps, il y a déjà un problème avec les Houthis à cause d'abord de la distance entre Israël et le Yémen, 2000 km, et aussi le manque d'intelligence, d'information. Moi, j'avais recommandé déjà depuis 2017 de faire attention aux Houthis comme un membre très important de l'axe de la résistance. Mais rien n'a été fait. Il n'y a pas eu aucun effort de chercher des informations sur les Houthis. Donc, je crois que la seule solution, une grande partie des experts aussi aujourd'hui pensent la même chose, c'est qu'il faut neutraliser, si vous voulez, le leader du mouvement Abdelkader Houthi, Abdelmalek al-Houthi, et aussi d'être très proche de sa famille, parce que c'est une famille, c'est une sorte de mafia qui d'abord contrôle les Houthis, c'est-à-dire la grande tribu, la grande famille des Houthis, et aussi contrôle 30% du territoire du pays, mais 70% de la population, après une période d'autoritaire, dictatorielle, l'assassinat de 40 chefs tribaux pour arriver à cette situation et le contrôle de la capitale Sanaa.
Alors,
donc il faut cette opération, mais c'est très difficile dans les conditions dans lesquelles se trouvent les dirigeants du Houthis, qui sont, si tu veux, Abdelmalek, qu'il est à Saada, il n'arrive pas jamais à Sanaa, qui est la capitale. Il vit soit dans un tunnel, soit dans un bunker souterrain. Et il n'a pas d'information où il se trouve. Il ne rencontre pratiquement personne. Seulement, il parle même avec les négociations par Zoom. La deuxième possibilité, ou nécessité surtout, c'est de faire une alliance avec les forces qui sont contre le Houthis. Il y a encore une armée qui se trouve dans le sud et dans l'est du pays et qui a des relations importantes avec les Saoudiens, avec les Émirats et avec les Américains. On voit déjà ces derniers jours, il y a une certaine recrudescence de la guérilla, disons des attaques contre les Houthis, et cela avec combiné avec la destruction du leadership, ça peut donner une réponse, disons, efficace.
Alors vous le dites, il faut frapper le chef justement des rebelles Houthis du Yémen. Certains experts, certains observateurs disent qu'il faut frapper là où le financement aussi se trouve, c'est-à-dire l'Iran. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'ailleurs, on a entendu ce matin Stéphane Juffa sur notre antenne dire que les Houthis en eux-mêmes ne représentaient pas une réelle menace, mais c'était l'Iran derrière, avec les installations nucléaires iraniennes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Malheureusement, ils sont assez indépendants aujourd'hui des Iraniens parce qu'ils ont reçu suffisamment d'arsenal de missiles de longue portée, de drones. Ils ont développé leur propre industrie pour améliorer même certains missiles iraniens, un peu comme le Hamas dans le temps. Et du point de vue, disons, stratégique, même idéologique, ils ne sont pas commandés par les Iraniens. Il faut savoir que les Houthis, comme tribu, comme les, communauté zayadiste, a contrôlé le Yémen jusqu'au moitié des années 60 de du siècle passé dans un imamat pour 1000 ans. Donc ils veulent reconstituer cet imamat, ils veulent instaurer une monarchie autoritaire, ou une dictature monarchique si vous voulez, comme dans le temps. Et pour cela, le leader Abdelmalek el-Houthi est considéré non seulement un premier ministre ou président, c'est un leader religieux, politique et militaire en même temps, un peu comme en Iran. Donc il coordine avec les Iraniens, il ne dépend pas des Iraniens. On a vu que pour ne pas frapper les navires russes ou chinois, ils ont négocié directement avec les régimes de Poutine et de Xi. Et ils ont un accord avec eux. Et donc, même si on frappe l'Iran, et il faut frapper l'Iran surtout à cause du projet nucléaire, mais ce n'est pas connecté avec les Houthis.
Eva pour Elie.
Elie Carmon, l'Arabie Saoudite dernièrement aide le gouvernement yéménite internationalement reconnu, lui fournit des aides pour lutter contre les Houthis. Est-ce que Israël a des liens avec l'Arabie Saoudite qui semble avoir plus de prise, en tout cas sur le territoire yéménite, vu ses liens avec le gouvernement reconnu sur place?
L'Arabie Saoudite a eu une relation très difficile, une guerre très difficile avec les Houthis et a perdu la guerre pratiquement après 4, 5 ou 6 ans de lutte. Les Émirats sont beaucoup plus actifs, beaucoup plus agressifs quelquefois. Les Saoudiens maintenant encore maintiennent une négociation avec les Houthis pour tenter d'arriver à un accord. Et donc ils sont beaucoup plus réservés. Je crois qu'hier ou avant-hier, les Houthis ont menacé l'Arabie Saoudite de frapper leur facilité de pétrole et de gaz. Et ça s'est passé déjà en 2019, quand ils ont frappé les raffineries et les dépôts de pétrole avec l'Iran à l'époque. Et le président Trump n'a fait rien pour aider, pour défendre l'Arabie Saoudite. C'est pour cela que l'Arabie Saoudite est beaucoup plus réservée à participer dans la coalition maritime aussi. Maintenant, il y a déjà un processus peut-être soutenu par la chute du régime de Assad en Syrie. Ça donne beaucoup plus de courage tant aux Saoudiens comme aux forces légales, parce que les forces légales sont reconnues par les Nations Unies. Ils reçoivent, ils doivent recevoir l'aide humanitaire, mais l'aide humanitaire arrive par Hudeida. Donc, quand on bombarde Hudeida ou l'aéroport, l'aide humanitaire n'arrive pas là où il devrait arriver.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui, même si effectivement Israël n'a pas de relation diplomatique directe avec l'Arabie Saoudite, un moyen de créer, comme il y a eu dans les accords d'Abraham, une alliance contre l'Iran, qui s'est finalement soldée effectivement par ces accords d'Abraham? Est-ce que aujourd'hui Israël a les moyens de faire alliance avec l'Arabie Saoudite pour lutter contre les Houthis du Yémen, même si diplomatiquement il n'y a pas de lien?
Il y a une coopération secrète, si vous voulez, au niveau des services d'information. Les deux pays, ce sont dans le contexte du CENTCOM, le commandement américain de la région. Il y a une flotte américaine et une flotte britannique qui bombardent pratiquement chaque semaine, sinon ces derniers jours, chaque jour, les dépôts et les arsenaux de Houthis. Donc il y a une coordination. Le problème, c'est surtout le problème politique à niveau régional. Les Saoudiens ne veulent pas être ouvertement impliqués dans cette lutte, mais je dis, ce qui s'est passé en Syrie doit encourager tant les forces légales, qui déjà, je crois que les dernières deux semaines, il y a eu beaucoup plus de combats et une certaine avance des forces légales contre les Houthis. Et comme je dis, les Houthis menacent directement l'Arabie Saoudite et ils peuvent vraiment toucher ce dépôt de pétrole saoudien. Ce serait un grand problème.
Est-ce que vous voulez dire que il y a quand même des contacts qui passent à travers le CENTCOM, ça veut dire le commandement américain, entre Israël et l'Arabie Saoudite pour lutter contre les Houthis? C'est ça que vous avez dit tout à l'heure?
Moi, je crois qu'il y a aussi des contacts directs.
Des contacts directs entre Israël et l'Arabie Saoudite?
Moi, je suis sûr, je n'ai pas d'informations, mais connaissant un peu l'histoire de relations d'Israël avec les pays du Golfe, on a vu déjà qu'il y a eu des visites, il y a eu des rencontres, même il y a eu des rencontres des chefs d'état-major il y a quelques mois, avec les Saoudiens et les autres pays du Golfe, et avec les Américains. Donc, c'est une question surtout d'arriver, pour les Saoudiens, d'arriver à la conclusion qu'il n'y a pas le choix, le seul choix, c'est de lutter ensemble avec les Yéménites légaux et avec les forces de la coalition américaine contre les Houthis. Et par exemple, sur le problème de l'information, où se trouve dans un certain moment Abdelmalek el-Houthi, c'est un peu comme on avait cherché Hezbollah, Hassan Nasrallah. C'est-à-dire, les Saoudiens ou les Émirats peuvent donner des réponses beaucoup plus exactes à ce sujet, comparé à Israël, qui se trouve, comme je dis, à 2000
kilomètres.
Il y a déjà une vidéo aussi en Afrique, en Érythrée, en Somalie, et dans l'île de Socotra, qui est très proche. Et là, il y a des forces, il y a des préparations à partir de ces territoires pour couvrir le Yémen.
Merci beaucoup Élie Carmon, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J pour commenter cette actualité sécuritaire en Israël. On continuera à faire le point, je l'espère, avec vous très bientôt. On continuera à suivre aussi tous les développements dans la région. Merci Eva, à tout à l'heure sur Radio J.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Ce qu'il y a chez nous, il y aura chez eux. C'est le slogan de l'association Au cœur de la bonté, créée en 2020. Elle s'est engagée à soutenir plus de 600 familles avec l'aide précieuse de 400 bénévoles dévoués. Qu'il s'agisse d'offrir des denrées alimentaires via leur épicerie, du cœur, de recycler des objets, notamment dans leur recyclerie, ou encore de construire l'avenir des enfants. Cette association est bien plus qu'une simple organisation caritative. C'est une main tendue vers un avenir plus juste et humain. Et puis au cœur, justement, de cette association, Naomi Slamar, responsable d'Au cœur de la bonté. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Naomi, ce matin. Ça nous fait plaisir de vous entendre.
Eh ben, merci de nous inviter, surtout.
Avec grand plaisir.
Merci de nous inviter à vous. Très fier de passer sur vos ondes.
Avec grand plaisir pour cette fête de Hanouka. Alors d'abord, pour mieux vous connaître, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être les débuts de l'association Au cœur de la bonté? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? Qu'est-ce qui vous a donné envie de tendre la main?
En plein Covid, quand on voyait ce qui se passait un petit peu à droite et à gauche, on s'est dit qu'on pouvait pas rester comme ça. On a eu l'opportunité qu'un ami nous a donné l'occasion de pouvoir stocker les choses avec un local, etc. Et c'est de là qu'on a commencé en fait à créer justement rapidement en fait cette épicerie sociale, sur Internet. Où en fait les gens pouvaient commander, une fois qu'on avait accepté le dossier, commander sur Internet et on leur livrait rapidement les courses pour que les personnes âgées ou les gens qui avaient perdu leur travail ou ceux qui étaient malades, etc., ne pouvaient pas sortir, on pouvait avoir ce qu'il fallait dans leur placard et dans leur frigidaire. Et après, les choses, elles se sont installées doucement et ont grandi encore plus.
Alors effectivement, une association qui grandit, qui fait beaucoup de choses, vous êtes très active effectivement. Alors là, on l'a dit, c'est la fête de Hanouka. Quelles sont les opérations que vous avez organisées? Je crois qu'il y a des centaines et des centaines de cadeaux qui ont été emballés et livrés aux enfants.
On a dépassé les 1000 cadeaux cette année. Cette année a été une année assez particulière parce qu'on a eu des cas de famille ou de dossiers assez compliqués. Donc on a voulu gâter vraiment chaque enfant. Alors ils sont pas tous dans une situation très compliquée, mais souvent vivent dans une misère sociale pas simple toute l'année. Il y a eu beaucoup d'enfants de pédophilie, d'inceste, de viol, beaucoup d'enfants qui ont perdu un parent proche. Il y a eu beaucoup d'abandon de domicile cette année. Donc on a voulu vraiment en fait appeler chaque enfant pour leur demander exactement ce qu'ils avaient envie dans la mesure du possible. Oui. Donc la force de l'association, ça a été d'avoir pris le temps, d'avoir appelé, c'est pour pouvoir faire 800 cadeaux et certains enfants dont la situation était plus difficile. On savait que par exemple, c'était le premier Hanouka où il manquait un parent. On a voulu leur faire 5-6 cadeaux parce qu'ils le méritent, parce qu'ils en avaient besoin.
Effectivement, et vous avez publié d'ailleurs sur vos réseaux sociaux les appels des enfants qui ont demandé des cadeaux spécifiques. C'était très mignon. Alors, la force aussi d'Au cœur de la bonté, c'est ces bénévoles. Vous avez énormément de bénévoles pour vous aider. Hein.
Exactement. Alors, c'est très marrant, mais on est en plus dans un quartier, on va dire, un peu sympa, puisqu'on est à Charenton. On pourrait penser que les femmes travaillent ou ne travaillent pas, mais sont assez occupées pour... voilà, on n'est pas dans un quartier populaire où on connaît forcément la misère, mais dès qu'on passe un appel, dès qu'on fait une opération, elles sont ou ils sont, parce qu'il y a aussi les livreurs du cœur qu'il faut pas oublier, elles sont très nombreuses et ils viennent très nombreux, même avec leurs enfants, même avec avec leur famille. Enfin, c'est devenu presque viral, on va dire.
Ouais.
De venir, on crée même des ambiances, on les accueille bien. On met une petite ambiance, en fait chacune arrive à trouver leur place, et c'est pour ça qu'au final, une fois qu'elles ont trouvé leur place, elles ont envie de montrer un peu à leurs copines, à leur mère, à leur belle-mère comment c'est chez elles, parce que c'est chez eux. Et c'est vrai que l'une des forces de l'association, c'est ses bénévoles, mais la plus grande force, c'est la force qu'on a à chaque fois avec les cagnottes, qu'on n'y arrive jamais au début, qu'on est tétanisé parce qu'il y a des très grosses demandes et qu'on a très peur, mais grâce aux réseaux sociaux, ne me demandez pas comment on le fait, mais à la fin, il y a toujours un miracle. Là, cette année, on a vécu un vrai miracle en direct de Hanouka. On devait aller rendre les cadeaux réellement au magasin et on était triste parce que c'était pas possible pour nous de rendre ces cadeaux-là. On a eu en 24 heures une montée de la cagnotte. Enfin voilà, les gens ont répondu sur les réseaux de façon incroyable.
Eh bien, épicerie du cœur, notamment des opérations pour les enfants, la recyclerie également. Merci beaucoup Naomi. On aura peut-être l'occasion de reparler de votre association avec grand plaisir. Au cœur de la bonté, vous pouvez retrouver bien sûr le travail de Naomi sur ses réseaux sociaux. Au cœur de la bonté, n'hésitez pas à les contacter aussi si vous souhaitez participer aux actions de bénévolat.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.
La chronique, c'est bon pour la santé, avec le docteur Serge Raffal avec nous en direct. Bonjour docteur.
Bonjour Ilana, bonjour.
Et nous sommes plus qu'à quelques heures avant le réveillon du jour de l'an. Bah oui, c'est le dernier jour de l'année, hein, ce 31 décembre 2024, la fin des fêtes de Hanouka également, ce qui risque de mettre à mal nos systèmes digestifs et parfois nos têtes en raison de la composition de ces repas toujours très gras ces derniers jours, riches en sucre et souvent arrosés. Et justement, vous souhaitiez, Serge, faire ce matin un focus sur l'alcool qui accompagne volontiers les fêtes, hein.
Oui, Ilana, en effet, à l'avalanche de graisse et de sucre que vont représenter ces deux dîners successifs, risque, j'imagine, de s'inviter quelques apéros, une ou quelques coupes de champagne, un ou quelques verres de bon vin, qui vont alourdir la note calorique et peut-être entraîner la bouche pâteuse, un mal de crâne, une crise de foie ou la fameuse gueule de bois du lendemain. Moi, je pensais utile de vous apporter quelques recommandations et conseils pour limiter la casse.
Alors, ça commence dès l'apéritif.
Oui, et possiblement, il en a même dès l'après-midi. Je ne reviendrai pas sur la collation. Hein. On en a parlé la semaine dernière, un fruit de saison, 2-3 noix, un carré de chocolat noir vers 17h. L'alcool constitue en effet souvent le premier piège de la soirée, surtout si on arrive affamé. Un verre de vin, une coupe de champagne, c'est déjà autour de 100 calories par verre, mais surtout, ça ne désaltère pas, ça donnerait même plutôt soif. Attention également aux cacahuètes et pistaches, surtout salées, aux noix de cajou, très caloriques. Donnez la préférence aux aliments, à l'apparence d'aliments, les bâtonnets de légumes, les canapés de saumon, plutôt que les verrines ou les canapés. Et essayez d'emblée d'alterner les boissons alcoolisées avec de l'eau et pourquoi pas bicarbonatée, badois, Kézac, Rosana, Vichy, qui tamponne l'acidité et va faciliter la digestion.
Alors, est-ce que vous pouvez aussi, Serge, nous rappeler les quantités d'alcool contenues dans un verre ?
Dans un bistrot ou dans un bar, il en a la dose standard d'alcool est de 10 degrés, que ce soit un ballon de 12 centilitres de rouge, de 25 centilitres de bière à 5 degrés, une coupe de champagne, un apéro de 7 centilitres, un pastis un petit peu démodé de 2,5 centilitres, un whisky de 3 centilitres. Vous pouvez constater que les contenances diffèrent, mais que la quantité d'alcool est la même. Ça, c'est dans un bistrot, dans une soirée familiale ou privée. Les verres sont souvent plus grands, les portions plus généreuses, ce qui a évidemment des conséquences sur la quantité d'alcool ingérée.
Est-ce que aussi, Serge, vous pouvez nous dire comment on calcule finalement l'alcoolémie ?
Deux doses de ces boissons montent l'alcoolémie autour de 0,50 g, ce qui constitue, je vous le rappelle, la limite autorisée pour reprendre la route ensuite. C'est bien sûr un ordre de grandeur qui varie avec le sexe, l'âge, le poids, l'état de forme, la santé. Mais en gros, un verre standard, ça fait monter en moyenne le taux d'alcool de 0,20 à 0,25 grammes par litre. C'est ainsi, voilà, sans être très fort en maths, que trois verres d'alcool vont amener vers 0,80 grammes par litre. Donc, interdiction de reprendre son véhicule, d'où l'importance de désigner un capitaine de soirée qui, lui, reste sobre.
C'est ça.
Souvenez-vous que 16 personnes sont mortes l'an passé dans un accident de voiture le soir du réveillon.
Mais oui, il faut choisir son Sam. Sam, c'est celui qui ne boit pas. Alors, est-ce qu'on connaît la cinétique de l'alcool ?
Oui, le pic d'alcool est obtenu 30 minutes après l'ingestion à jeun. La nourriture ralentit cette montée qui prend alors le double de temps, soit une heure, mais qui aboutit finalement aux mêmes concentrations sanguines. Les premiers effets cliniques observés, une euphorie, la voix inappropriée à la situation, un discours un peu empâté, un manque de coordination, diminution de la vigilance, une perte de la motricité fine, apparaissent un peu plus tard. Le temps d'élimination est plus rapide chez les hommes, mais il reste autour de 4 heures pour 2 verres de vin, ce qu'on peut vérifier au moyen d'un éthylotest.
Des moyens de freiner la montée de l'alcoolémie ou du moins d'éliminer plus rapidement l'alcool, Serge ?
Ah, il y en a des moyens, il y en a, mais il est inutile d'ouvrir la fenêtre, de sucer des bonbons à la menthe, de prendre 3-4 granules de Nux Vomica, de se bourrer de chardon-marie ou d'artichaut, de boire un café, une boisson énergisante, de prendre de la vitamine B6 ou de la vitamine C, de faire 15 pompes en espérant éliminer l'alcool plus vite. Il faut juste attendre, c'est la seule solution efficace.
Alors, est-ce que vous avez aussi par ailleurs des astuces anti-gueule de bois ?
Mes conseils sont simples. Hein. Rester de préférence sur la même boisson alcoolisée et ne pas mélanger. Boire beaucoup d'eau en alternant volume pour volume avec l'alcool pendant, puis en continuant à boire de l'eau après. Et à noter que contrairement à certaines idées reçues, aucun aliment ne protège vraiment de la gueule de bois et qu'un chewing-gum ne va pas vous protéger à l'occasion d'un éventuel éthylotest.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ?
Je me contenterai juste de plagier un slogan que vous connaissez. L'abus d'alcool, c'est lui aussi toujours avec modération. Allez, bonne fête à tous. Quand on a un ami, on le retient, nous dit la sécurité routière. Malheureusement, parfois plus facile à dire qu'à faire. Mais ça n'est pas une raison de ne pas essayer.
Eh bien.
Et plus loin, Ilana, nous parlerons la semaine prochaine du Dry January.
Eh bien, merci beaucoup, Serge Raffal, le docteur de Radio J. Écoutez, je vous souhaite en avance, même si apparemment ça ne se fait pas, une bonne année 2025. On se retrouve l'année prochaine, Serge. À demain.
Bonne soirée. Radio,
Radio. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Merci de nous rejoindre sur Radio J, comme tous les matins. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 9h et on allumera ce soir la 7e bougie de Hanouka. Des allumages publics sont prévus, vous le savez, tous les jours et pour ces deux derniers jours. Allumage ce soir 19h30, place du Maréchal Juin dans le 17e arrondissement. Demain, mercredi 1er janvier, ce sera à 18h, place de l'Opéra dans le 9e arrondissement. Le nouvel an également, un dispositif de sécurité exceptionnel sera mis en place afin de garantir la tranquillité des festivités du nouvel an ce soir. Pas moins de 10 000 policiers et gendarmes seront déployés dans toute la capitale cette année. C'est la plus belle nouvelle avenue du Monde, les Champs-Élysées, qui accueillera un spectacle lumineux à couper le souffle avec des projections spectaculaires sur l'Arc de Triomphe. Déjà des restrictions de circulation. À noter par ailleurs que ce soir, évidemment toute la nuit, les transports en commun seront gratuits et fonctionneront bien jusqu'à 5h30 du matin pour les lignes de métro 1, 2, 4, 6, 9 et 14. Idem sur les lignes de RER, A, B, C, D et E, les lignes de Transilien aussi. Vous pouvez vous renseigner. Nous sommes en direct, évidemment, avec Léa Moscona. Bonjour Léa.
Bonjour Ilana, comment allez-vous?
Écoutez, ça va, vous allez passer un... Vous allez faire quoi ce soir, un petit...
Écoutez, ce soir, je vais aller me promener dans les bois.
Un nouvel entrée spéciale pour Léa Moscona.
Je vous avais dit hier, j'allais à la campagne.
Ah,
donc une
mais
petite
oui,
balade.
Mais oui, c'est vrai.
Une petite balade dans les bois avant.
Mais vous avez raison,
voilà,
de prendre l'air.
Ça fait du bien.
C'est ça,
bah,
ça
oui,
fait
je
du
sais
bien.
Que moi, je suis une fille de la campagne.
Ah, c'est mignon.
Ah bah oui.
Mais écoutez, en tout cas, on vous souhaite une bonne nuit du nouvel an.
Et vous, alors?
Et bah moi, écoutez, je vais rester avec mon mari et ma fille à la maison, tranquillement, pour faire une matinale de qualité demain matin.
Oui, droite.
Eh bien, je vous dis à tout de suite.
À tout de suite, Ilana.
Radio J.
Bonjour, c'est Liz Goodman.
Le 10-11, Liz Goodman.
Ravi de vous retrouver tout à l'heure au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Radio J.